bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français, qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1 80 14 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe, pour l'émission Épistéo, et pour finir, un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchou dans la chronique que vous connaissez bien maintenant. Il s'agit de Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue au micro de Sentez-vous bien.
Bonjour Oscar.
Tout se passe bien de votre côté?
Nous avons reçu des nouvelles scientifiques fort intéressantes.
Donc vous allez nous en faire part, j'imagine.
Bah oui, déjà.
Et alors donc, ça concerne le cannabis, je crois.
Oui. Il y a une équipe australienne qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Rees, R-E-E-C-E, qui a publié dans une revue prestigieuse, qui s'appelle Mutation Research, c'est-à-dire la recherche sur les mutations, qui a montré que on avait avec les cannabis au niveau des cellules, on a ce qu'on appelle un chromotrypsis. Alors c'est un gros mot.
Oui, là il faut expliquer.
Alors un chromotrypsis, c'est une pulvérisation des chromosomes. C'est-à-dire que quand les cellules se divisent, vous savez que nos cellules se régénèrent très souvent.
Oui.
Et quand elles se divisent, pour que les cellules filles de la cellule mère aient exactement le même équipement génétique, c'est-à-dire les mêmes chromosomes que la cellule mère, il faut pour cela que dans la cellule mère qui va donner les deux filles, il faut qu'il y ait une structure qui s'appelle le fuseau qui se mette en place. C'est comme imaginer une espèce de petite toile d'araignée bien structurée sur laquelle vont s'accrocher les chromosomes qui se sont divisés au préalable, et les chromosomes fils, si vous voulez, vont se fixé sur les tubules de la toile d'araignée, et cette tubule va avoir des mouvements, va attirer les chromosomes vers la partie qui sera la partie fille avant que ne se divise la cellule mère. Vous voyez, c'est une mécanique absolument incroyable.
Oui, juste quand on vous entend comme ça, déjà, on est admiratif.
Si les humains prenaient l'habitude de seulement admirer et contempler ce qu'ils sont, je crois que ça générerait beaucoup de sagesse chez les humains. Ça aiderait à en avoir. Quand les cellules sont soumises au cannabis, eh bien, on voit que le fuseau n'est pas organisé. Enfin, ça se passe très mal. Et ce qui fait que on va avoir des bouts de chromosomes qui vont aller d'un côté, d'autres de l'autre. Et ça va aboutir.
C'est complètement désorganisé.
C'est désorganisé. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une dispersion du matériel génétique cellulaire en plusieurs micro-noyaux. C'est-à-dire qu'on va avoir, au lieu d'avoir un seul noyau, on va avoir plein de micro-noyaux avec des modifications morphologiques des chromosomes, des erreurs de répartition du matériel génétique entre les cellules filles au cours de la division cellulaire. Et ça va entraîner un arrêt de croissance de certains tissus. On a une apparence, vous voyez, de cellules cancéreuses. C'est-à-dire que le chromotrypsis, on a un chromotrypsis dans les cellules cancéreuses. Quand on observe des tissus cancéreux, on a un chromotrypsis. Et ben, on a la même chose avec le cannabis. On a une pulvérisation, ce qu'on appelle une pulvérisation des chromosomes.
Et pulvérisation dans le sens où elles sont...
Oui, c'est pulvérisé.
Au lieu d'être, elles sont pulvérisées comme si elles explosaient.
C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un seul noyau, vous avez des micro-noyaux, il y en a un peu, c'est le désordre.
D'accord.
Au niveau des cellules filles, les microtubules ne se dépolymérisent pas bien. Parce que les microtubules sont constitués de petites briques qui vont s'assembler et se désassembler, ce qui est une mécanique absolument incroyable.
Oui, vous aviez expliqué dans une émission précédente que ça se construisait au fur et à mesure et ça se redéconstruisait et c'était en permanence, ça se faisait en permanence.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ce qui est incroyable. Et ben là, avec le cannabis, on a une espèce de blocage de la dépolymérisation, c'est-à-dire que tout est bloqué, quoi. Et ça ne fonctionne plus bien.
Donc on constate des effets flagrants sur le fonctionnement du corps.
Ah bah oui. C'est ce qui explique le pouvoir cancérigène du cannabis, les anomalies fœtales chez la mère qui a fumé du cannabis, et puis des modifications épigénétiques, c'est-à-dire des modifications de l'expression des gènes
sur plusieurs générations.
Ce que on en avait déjà parlé, c'est les travaux de Yasmin Hurd aux USA qui montrent que les anomalies induites par le cannabis se transmettent sur plusieurs générations. Et en particulier, ce qu'elle avait montré, c'est que l'appétence pour les substances addictives est augmentée chez les descendants de gens qui ont pris du cannabis. Ce qui est intéressant de cette étude australienne, c'est que il montre que, en fait, c'est les mêmes déterminants qui expliquent la cancérisation, les troubles neuropsychologiques et le pouvoir mutagène génotoxique chez les petits d'hommes en formation dans le ventre de la mère. C'est les mêmes déterminants. Vous voyez, on a une unicité physiologique. On comprend, à partir de ce chromotrype 6, on comprend que les choses ne puissent pas se passer bien. Hein.
En tout cas, ce que je retiens, c'est que fumer du cannabis peut produire un cancer.
Ah ben ça, on le sait depuis longtemps.
On le savait déjà.
Oui.
C'est pas nouveau.
Non, c'est pas nouveau. Mais là on a la mécanique, quoi. On va donner à nos auditeurs la référence. Hein. Sur Internet, vous tapez Albert Stuart, Reece, R-E-E-C-E, chromotripsis. En tapant chromotripsis, C-H-R-O-M-O-T-H-R-I-T, P-S-I-S et RICE, R-E-E-C-E. Je pense que vous arriverez au moins à l'abstract.
Docteur Jean Lindsay, merci d'être venu partager en tout cas cette découverte à ce micro. C'était Sentez-vous bien et puis je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique.
Au revoir Oscar.
À bientôt, au revoir.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la question des miracles. Alors on met beaucoup de choses derrière ce thème miracle, qu'on soit croyant ou non. On a du mal parfois à définir ce thème, qu'est-ce qu'on y place exactement, donc on va s'interroger là-dessus. Alors justement Alexis, commençons par ça, quelles sont les différentes conceptions de miracles ?
Alors globalement on peut dire qu'il y a deux différentes conceptions des miracles. On a d'une part une certaine conception, qui est d'ailleurs la plus répandue, la conception majoritaire, du miracle conçu comme étant une rupture dans l'ordre naturel des événements. Une rupture, ou autrement dit, une violation des lois de la nature, c'est la formule qui revient le plus souvent. Donc ça, c'est un concept du miracle, où on considère que Dieu interfère avec l'ordre de la nature, ou intervient dans le cours de la nature. Il rompt le cours de la nature, il le modifie en suspendant les lois de la nature. Et puis, on a une autre conception à côté, qui est un peu moins répandue certes, mais qui insiste sur quelque chose qui est peut-être plus traditionnel dans la notion de miracle, à savoir que ce qui est important, ce n'est pas qu'il y ait une suspension des lois de la nature, ce n'est pas qu'un événement soit contre nature. Une simple coïncidence peut être admise comme un miracle, à condition, et c'est là que c'est vraiment très important pour cette seconde conception, ce qui est vraiment important, c'est que l'événement soit porteur d'un message qui puisse être interprété religieusement comme étant un signe divin. C'est ça qui est important. C'est un événement qui a une signification théologique. Si, par exemple, un train parvient à s'arrêter in extremis pour éviter un accident, une personne religieuse pourra dire « Dieu est vraiment provident, Dieu a permis qu'il n'y ait pas d'accident ». Voilà. Donc c'est, et pourtant l'événement est purement naturel. Donc ce qui est vraiment important, c'est l'idée porteur de messages théologiques. Et donc ça, c'est le concept qui est plutôt proposé par un penseur qui s'appelle Holland et qui a écrit en 1965 un article intitulé « The Miraculous ». Donc deux conceptions, d'une part suspension des lois de la nature, ou d'autre part porteur de messages théologiques.
Alors deux conceptions, c'est bien beau, mais c'est laquelle qui semble la plus appropriée?
Alors pour ma part, je pense que la première conception est plutôt faible, et il y a à vrai dire pas mal d'arguments à charge contre elle. Le premier élément, c'est tout simplement qu'elle manque la notion traditionnelle du miracle, qui est le fait qu'un miracle est avant tout un message divin. Il est porteur, c'est un signe divin. C'est un signe de la volonté ou de la bonté de Dieu. C'est ça qui est important. N'importe quel événement extraordinaire n'est pas un miracle. Une météorite qui tombe sur Terre, ou un événement quelconque qui soit extraordinaire, c'est pas cela qui le fait que c'est un miracle. Un miracle a avant tout essentiellement affaire au domaine de la théologie, au domaine donc de l'interprétation, au domaine de l'idée qu'il y a la volonté de Dieu qui est bienveillante envers nous. Donc ce qui est important, c'est la notion de message, et ça, c'est totalement absent de l'idée de suspension des lois. Donc c'est le premier élément. Deuxième élément, on a affaire peut-être à une conception qui est un peu anthropomorphique vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que on descend Dieu de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa transcendance, et on le descend à être un simple élément dans le monde. Alors je m'explique. En disant qu'il interfère dans l'ordre du monde, c'est-à-dire on conçoit le monde comme étant un système totalement indépendant, et puis Dieu se dit « Ah tiens, là j'aimerais changer tel événement ». Donc il cesse d'être transcendant, il cesse d'être intemporel, il cesse d'être infini, il intervient dans l'événement, il est un élément parmi d'autres qui vient jouer dans la causalité. Autrement dit, Dieu n'est qu'un élément parmi tous les autres. Et donc là, on perd la transcendance de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là, il est transcendant, c'est-à-dire que l'ordre lui-même est constamment dépendant de Dieu. Dieu a établi des lois, et les lois expriment même la volonté de Dieu. Ici, là, on a d'un côté Dieu, et de l'autre le monde, et Dieu, de temps en temps, il vient jouer dans une cour de récréation qui est le monde. Et c'est pas ça. Là, on a une conception qui est beaucoup trop anthropomorphique de Dieu, à tel point que certains philosophes chrétiens assez connus, tels que Plantinga par exemple, qui est un philosophe plutôt conservateur, affirment que cette notion est beaucoup trop anthropomorphique pour pouvoir être soutenue. Il y a d'autres problèmes. On peut notamment se poser la question sur le sens même du concept de la suspension d'une loi de la nature. Quand on réfléchit à ce que signifie une loi, qu'est-ce qu'une loi ? Eh bien, une loi, c'est une récurrence, c'est-à-dire quelque chose qui arrive régulièrement, qui n'admet pas d'exception. C'est ça, une loi. Sinon, c'est qu'une simple récurrence. Mais une loi, ça n'admet pas d'exception. Or, si on dit violation d'une loi, on dit exception, donc ça n'est pas une loi. Donc ou bien il y a exception et dans ce cas ce n'est pas une loi, ou bien il y a loi et dans ce cas il ne peut pas y avoir d'exception. Dans tous les cas, il ne peut pas y avoir de miracle entendu comme suspension des lois de la nature. Et rappelons que même la Bible l'affirme. Quand on lit la Bible, quand on lit psaume 148 verset 6, que lit-on? Nous lisons la chose suivante: Dieu a donné des lois, il ne les violera point, dit-il à propos des lois de la nature. Donc même le texte biblique semble contredire cette idée de violation, de suspension des lois de la nature. Enfin, un dernier élément qui est quand même très important, c'est que si les lois ont été déterminées par la sagesse divine, si de temps en temps il a envie de se corriger et d'apporter une petite correction aux lois, ça veut dire que il est en train de dire que ce qu'il a déterminé en fonction de sa sagesse a besoin de correction, et autrement dit, on est en train de dévaluer l'intelligence divine. Donc tout cela milite franchement, très largement, en défaveur de la première conception. Il vaut mieux concevoir le miracle comme étant un événement certes exceptionnel, mais pas contre nature, un événement naturel qui est déterminé par Dieu certes, mais qui est naturel et qui est porteur surtout d'un message divin.
Et pourtant, quand on lit la Bible, on a l'impression de voir des miracles au sens de suspension de lois naturelles, des choses surnaturelles qui arrivent, qui débarquent. Est-ce que du coup, ces miracles qui semblent être comme ça, sont-ils faux ?
Non, ces miracles sont parfaitement authentiques. La question maintenant, c'est comment les lit-on ? Est-ce qu'on veut les lire absolument comme étant une suspension des lois de nature ? Ou est-ce qu'on accepte, par exemple, même qu'un scientifique, on lui pose la question, comment tu comprends cet événement ? Je prends un exemple. Dans l'Ancien Testament, il y a un événement qui est extraordinaire que tout le monde a en tête. C'est l'ouverture de la mer Rouge devant Moïse. Tout le monde a en tête cet événement parce que c'est l'un des plus incroyables dans l'Exode. Alors, est-ce que cet événement est une suspension des lois de nature ou pas? Quand on interroge, par exemple, deux océanographes qui ont fait une étude sur la question en 1992, il s'agit de Doron Neuf et de Nathan Paldor, ils affirment que cet événement est parfaitement explicable d'un point de vue scientifique. Ils affirment la chose suivante. Admettons qu'un vent nord-ouest souffle à 20 mètres secondes pendant 10 à 14 heures, eh bien cela suffirait à baisser le niveau de la mer d'environ 2,50 mètres, ce qui serait suffisant pour découvrir un récif sous-marin que les Hébreux ont pu traverser. Autrement dit, pour ces deux scientifiques océanographes, c'est un événement qui est tout à fait possible, même s'il est extraordinairement rare, là n'est pas la question, mais il est possible scientifiquement, il est possible avec des événements naturels, il n'est pas nécessaire qu'ils soient contre nature. Et lorsque nous lisons la Bible, qu'est-il écrit ? Eh bien, il est écrit également cela. Quand on lit la Bible, Exode 14, 21, on a encore une explication naturelle. Il est écrit la chose suivante. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Donc en gros, on a l'explication de ces deux scientifiques. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Autrement dit, on a un événement qui est parfaitement naturel, parfaitement explicable, qui ne contredit pas les lois de la nature. Plutôt, Dieu a utilisé les événements naturels. Dieu a utilisé les lois par lesquelles il gouverne l'univers pour intervenir, si je puis dire, pour surtout faire passer un message au peuple israélite. Oui, Dieu est bienveillant et oui, Dieu est avec vous.
Mais alors du coup, des miracles qu'on pourrait constater, comme celui-ci par exemple, donc la mer Rouge qui s'écarte en deux, est-ce que ça permet de certifier, d'attester la véracité de l'une ou l'autre religion ?
Alors non, je pense que les miracles ne constituent pas des preuves, même si néanmoins ils peuvent constituer des indices. Ce qui est très différent, un indice c'est un élément qui tend vers telle ou telle opinion, tandis que une preuve est un élément qui détermine définitivement la question. Là, je pense qu'on a plutôt affaire à des indices. Je prends un exemple. Admettons que quelqu'un prie pour un malade et que le malade est guéri. Il se peut que ce soit une simple coïncidence. C'est pas parce que le malade est guéri que forcément c'est la volonté divine qui voulait précisément à ce moment-là intervenir et faire porter un message. Il se peut que ce soit une simple coïncidence. Donc là, on n'a pas d'élément absolument déterminant. Ça peut être une simple coïncidence. Mais c'est vrai quand même que le contexte est troublant. Quelqu'un qui prie pour vous et vous êtes guéri, le contexte est troublant. Et en ce sens, le miracle, ou du moins ce type d'événement extraordinaire, permet de se poser des questions. Et le miracle donc suscite des questions. C'est pas une preuve, mais suscite des questions, c'est un indice. Alors toutefois, il faut se réserver de tirer trop vite un certain nombre de conclusions, puisque si on admet que c'est porteur d'un message, la question c'est porteur du message de qui ? Si on admet qu'il y a une entité surnaturelle qu'on appelle Dieu, il pourrait aussi y avoir des entités adverses à Dieu. Et donc la question c'est qui est à l'origine ou qui est l'auteur de tel message porté au sein d'un événement extraordinaire ? Et là, il faut sérieusement se poser la question, d'autant plus que même la tradition théologique le reconnaît. Jésus lui-même, par exemple, dans Marc chapitre 13 verset 22, dit que les faux prophètes feront des miracles pour essayer de tromper les personnes. Donc il faut se méfier des miracles. Les miracles sont des signes, certes, mais ce ne sont pas des preuves. Parce qu'il reste tout le problème de l'interprétation. Certes, il y a un événement extraordinaire qui vient de se passer, mais est-ce une coïncidence ou pas ? Et surtout, quel est le message qui est derrière ? Et ça, c'est la grande question. Alors, pour nous qui sommes chrétiens et pour les théologies naturelles, on affirme qu'il est possible de connaître Dieu à travers la raison, à travers la nature, comme c'est écrit par exemple en Romains 1, 18-21. Et par conséquent, c'est un premier élément de confrontation pour savoir si on a affaire, à quoi avons-nous affaire et comment interpréter la chose. Donc on a toujours des éléments. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que le miracle, c'est un élément qui est insuffisant pour nous pousser à croire quelque chose. Néanmoins, c'est un élément qui est suffisant, à cause de son caractère étonnant, pour nous interroger. C'est un indice. Non une preuve, mais un indice.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchou que nous poursuivons. Il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». « Bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchaud. Bonjour.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
Vous nous accompagnez régulièrement à ce micro pour partager avec nous une réflexion autour de passages que vous sélectionnez dans la Bible. Et aujourd'hui, vous nous invitez à prendre celui qui se trouve dans la lettre aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20. Alors la lettre aux Galates, c'est une lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul aux Galates. Alors ce texte nous dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre Péchaud, l'apôtre Paul, par ce passage? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce qu'il nous dit là?
Je crois qu'il existe des passages plus faciles à comprendre après une première lecture. On va bien sûr poser toutes les choses, mais effectivement, la difficulté vient du début de la proposition. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors pour expliquer cela, et recevoir aussi à travers ce verset, un enseignement et plus que ça, une meilleure vision de Dieu et de ce qu'il fait pour nous. Pour comprendre tout cela, on va déjà séparer deux moments dans la phrase de Paul, un temps au présent et un temps au passé, et s'intéresser d'abord au temps passé, c'est la fin du verset que vous avez lu. Le présent, c'était « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et puis la fin, c'était « je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Et moi, ce que je vous propose, c'est de voir en fait ce verset, ce que dit Paul, comme un constat a posteriori, c'est-à-dire après avoir pris conscience, connaissance de ce qui s'était passé avant, et bien maintenant, en tirer une conclusion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, mais en fait, c'est simplement vivre dans la foi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien, très simple, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. Voilà. Moi, Paul, parce que j'ai eu aussi une révélation de Jésus-Christ, parce que j'ai entendu le témoignage de ceux qui avaient connu Jésus-Christ, eh bien, je sais aujourd'hui que Jésus m'a aimé. Alors, bien sûr, Paul dit ça, l'invitation c'est que chacun puisse un jour dire, à travers la connaissance que j'ai aujourd'hui du Christ, de Jésus, de Dieu le Père, je peux poser quelque chose, c'est évident que Dieu m'a aimé. Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ça, on est déjà dans la conséquence, c'est aussi un acte historique du passé, mais parce que Dieu m'aimait, parce que le Fils m'aimait, il a accepté de vivre parmi nous, parmi les hommes, et de mourir sur la croix et de ressusciter. Ça, c'est un constat. Ce constat m'amène à voir Dieu différemment. Ce constat m'amène à ne plus voir Dieu comme le juge suprême, peut-être colérique parfois, sévère, mais comme un Père aimant qui se fait proche de nous, des thèmes que nous avons souvent développés. Je prends conscience de cela. Et ça m'invite à une autre vision et du coup une autre relation avec ce Dieu.
C'est une question de relation là, dans ce passage?
Dans ce passage et dans toute la Bible, c'est toujours une question de relation. Le christianisme, si ce mot définit la foi dans le Christ, le christianisme est une personne. Ce n'est pas moi qui invente cette formule, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Tout est dans la relation et c'est la relation que je vis avec Dieu, une relation personnelle, qui va m'amener à changer de vie. À obéir aussi, une obéissance qui aura comme moteur l'amour que j'ai pour Dieu, parce que Dieu m'aura aimé le premier, je vais prendre conscience de ça. Et cette relation d'amour, de confiance que Dieu instaure avec moi, m'amène, j'avais envie de dire tout naturellement, il faut le comprendre dans le sens de assez naturellement, parce que j'ai envie de le faire, va m'amener à obéir et à vivre la volonté de Dieu.
Et c'est ce qu'il faut comprendre quand l'apôtre Paul dit « c'est Christ qui vit en moi ».
Exactement. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis senti dépersonnalisé. Je me suis dit, mais c'est pas possible, moi j'ai encore envie de vivre. Mais il faut pas le comprendre comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout de suite après, Paul rajoute, ma vie présente dans la chair, c'est-à-dire la vie qui est la mienne, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Et c'est absolument extraordinaire de pouvoir vivre pleinement ça. De dire que, quels que soient les événements de ma vie, aussi bien mon quotidien qui est parfois difficile, que des événements un peu exceptionnels, mais qui aussi peuvent être difficiles, eh bien, tout cela, ma vie entière et la vie de ma famille, je peux la vivre dans la foi, c'est-à-dire dans une relation de confiance avec un Dieu, parce que, et je le répète encore une fois, ce Dieu se présente comme un père qui prend soin de ses enfants. Eh bien, cette relation est tellement forte, cette présence du Christ est tellement effective dans ma vie, que Paul arrive à dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. c'est en fait peut-être, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut, peut-être ce que pourrait dire un couple en disant on a chacun sa personnalité, mais l'amour qui nous unit fait qu'on réfléchit de concert, on avance ensemble, on vit notre vie séparément, mais aussi on est ce qu'on est parce qu'on est à deux. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu désire pour nous, c'est extraordinaire. On restera nous-mêmes, bien sûr, mais cette foi, le fait de pouvoir croire dans ce Dieu d'amour nous amènera à une relation si étroite avec lui qu'on dira un jour, je l'espère en tout cas, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.
Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse, à demain. We'll be right back.